débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro du débat BBC Afrique, Africa Radio de l'année 2021. Liliane Niacha, c'est vraiment un plaisir d'y être avec vous. Bonjour.
Bonjour Saint-Ish Mantar Tomté, heureuse année à vous et à toute l'équipe de BBC Afrique, du débat BBC Afrique, Africa Radio, ainsi qu'à l'ensemble de nos auditrices et auditeurs Saint-Ish. Et on va commencer avec la Centrafrique. Quelle sera la suite du processus électoral face au regain de violence et à la contestation des résultats du premier tour de l'élection couplée du 27 décembre dernier ?
Une élection présidentielle où le chef de l'État sortant Faustin Archange Touadéra est donné provisoirement vainqueur, alors que 10 candidats dénoncent, je cite, des irrégularités et une mascarade électorale. Ils ont introduit un recours collectif pour demander à la Cour constitutionnelle d'annuler le scrutin. Pendant ce temps, dans l'arrière-pays, les groupes rebelles ont repris les armes contre les positions de l'armée régulière et de ses alliés. Le débat est à suivre.
La France va-t-elle réduire ses effectifs militaires dans le Sahel après la polémique suscitée par la mort de plusieurs personnes dans le centre du Mali? L'incident Saint-Ish ravive les appels au départ des troupes françaises au Mali.
Et la France ainsi que le Mali, qui parlent d'une même voix, assurent que les victimes des frappes françaises étaient des djihadistes. Des associations locales, elles, dénoncent la mort de victimes civiles. Cette nouvelle polémique va-t-elle influencer, on se le demande, les décisions lors du prochain sommet G5 Sahel prévu dans quelques semaines seulement à N'Djamena? Les commentaires et les analyses sont à suivre, bien sûr.
En Côte d'Ivoire, enfin, la coalition de l'opposition change de tactique et renonce au boycott des élections. Elle annonce sa participation législative de mars prochain. Mais de quelles armes politiques dispose-t-elle pour conquérir l'Assemblée nationale ?
Une opposition ivoirienne qui affiche un front uni mais qui peine à faire bouger le camp au pouvoir. Elle n'a pas obtenu l'arrêt des poursuites et des réformes à la commission électorale qu'elle revendique, mais elle estime qu'il y a une avancée dans le dialogue politique. Nous allons décrypter cette actualité ivoirienne également avec notre panel que nous découvrons avec vous, Liliane.
Oui, Saint-Ish, et notre grand témoin de cette semaine est Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile en Centrafrique. Il est au téléphone de Bangui. Monsieur Lakosso, bonjour.
Bonjour à vous et bonne année à tout le monde.
Merci et bonne année également à vous. Vous êtes titulaire d'une licence en sociologie option animation rurale. Vous avez effectué de nombreux stages et formations, dont la spécialisation en ingénierie culturelle à l'Institut de la culture et de la communication à Paris en France, de même que le stage en gestion des manifestations culturelles internationales, toujours en France, ou encore celui en gestion des entreprises culturelles à Yaoundé au Cameroun. Vous êtes aussi, M. Lakosso, un homme de culture, artiste, auteur, compositeur, interprète. Et d'ailleurs, est-ce que vous jouez un instrument particulier, M. Lakosso?
Ben, je joue à la guitare.
Ah d'accord, vous jouez à la guitare.
Oui.
D'accord. En tout cas, je m'abstiendrai de vous demander un chant. Saint-Ish, nous pourrions avoir du mal à reprendre nos esprits après pour l'émission. Alors, je vais aussi souligner, M. Lakosso, que vous avez été consultant, formateur en édification de la paix auprès de l'ONG internationale Conciliation Resources, directeur du Festival international du conte et de l'oralité à Bangui. Vous avez été aussi coordonnateur du groupe de travail de la société civile pour la résolution de la crise en Centrafrique entre 2013 et 2016, et premier secrétaire du Conseil économique et social depuis 2007 et ancien membre du bureau exécutif de l'Organisation centrafricaine pour la défense de la nature. Je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là, M. Lakosso. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté notre invitation. Deux confrères nous accompagnent. Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'hebdo La Nouvelle Tribune à Bamako. Ibrahim, bonsoir, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également le plaisir d'accueillir Guillaume Bateau, journaliste au quotidien Notre Voix, proche du FPI à Fingessan, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Saint-Tiche, à vous pour le premier sujet.
Le scrutin du 27 décembre dernier en République centrafricaine était présenté par le gouvernement centrafricain et ses alliés, dont au premier plan l'ONU, comme une nécessité pour sortir le pays définitivement de la crise. Mais les contestations se sont accrues au fil du processus. Et sans revenir en détail sur les événements, on va juste citer les derniers développements de cette situation en Centrafrique. Alors, les autorités ont instauré un couvre-feu à Bangui pour raison de sécurité. 10 candidats de l'opposition, dont l'ancienne présidente de la transition Catherine Samba-Panza et les ex-premiers ministres Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziegele, demandent l'annulation du scrutin présidentiel alors que l'autorité nationale des élections a déclaré le président sortant, Faustin Akanji Touadéra, vainqueur au premier tour avec 53,92% des suffrages exprimés. Des résultats qui, bien sûr, doivent être validés par la Cour constitutionnelle au plus tard le 19 janvier. La justice a ouvert une enquête contre l'ancien président François Bozizé, notamment pour rébellion, lui qui est accusé de soutenir les rebelles qui ont lancé des offensives sur les positions de l'armée et la MINUSCA. Et ce dernier point, selon la force de maintien de la paix de la mission de l'ONU en Centrafrique, donc la MINUSCA, les rebelles n'ont pas progressé ou lancé d'attaque depuis 10 jours, à l'exception de Bangassou, situé à 750 km à l'est de Bangui. Alors, Monsieur Lakosso, la MINUSCA semble dire que les rebelles sont bloqués dans leur offensive. Est-ce que c'est le sentiment aussi à Bangui? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la capitale, vous vous sentez plus en sécurité, surtout avec ce couvre-feu?
Non, pas du tout. La MINUSCA est passée vraiment champion dans l'art de mensonges en République centrafricaine. Un exemple patent, c'est l'information que vous venez de donner. Vous n'êtes d'ailleurs pas le premier média à dire cela. J'ai été interviewé par deux, trois autres médias internationaux qui ont dit la même chose et qui n'est pas du tout vrai.
C'est vous pas voulez dire que les rebelles continuent d'avancer? Vous avez des informations contraires?
Les rebelles continuent. Oui, ils continuent d'avancer, ils continuent d'attaquer les positions des forces régulières, c'est-à-dire les forces armées centrafricaines, les Russes et les Rwandais regroupés. Les rebelles attaquent régulièrement leurs positions. Ils se battent pas plus tard que hier. Il y a eu un combat entre eux à Glimari, qui est à moins de 300 km de Bangui, une ville qui est située entre Sibut et Bambari. Il y a eu un combat là-bas à voir. Hier, il y a eu un grand affrontement qui a fait plus de 6 morts entre les FARC et les milices qui occupent la ville de Boire, qui est aujourd'hui divisée à deux. Les FARC occupent la moitié de la ville et ces gens-là occupent aussi la moitié de la ville. Et dans la Lobaye, on signale aussi des progressions des forces de la CPC et il y aurait eu des combats entre eux et les forces loyalistes. Donc l'information de la MINUSCA n'est pas du tout vraie. Et les groupes armés continuent de progresser, ils continuent de faire pression sur
l'armée régulière et les forces alliées. Alors nous allons peut-être au cours du débat revenir sur les offensives sur le terrain. Je voudrais qu'on parle d'abord du plan politique avec ce recours collectif introduit par les candidats de l'opposition qui demandent l'annulation du scrutin du 27 décembre dernier. Je suppose que vous n'êtes pas vraiment étonné. Ou je me trompe?
Ah oui, pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas du tout étonné. N'importe qui à leur place ferait la même chose. Parce que les irrégularités dans ces élections sont vraiment les gens. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'irrégularités. Et d'abord, le caractère inclusif de ces élections pose réellement problème parce que sur 1,8 million inscrits, il n'y a que 695 000 voix qui ont été valablement exprimées.
Alors, les chiffres de l'ANE disent quand même que c'est 910 000 électeurs environ.
Non, c'est pas 910 000. C'est 910 000. C'est-à-dire, ils ont fait, c'est-à-dire, l'ANE est dans une logique de tricherie. Parce que les 910 000, c'est tous les bureaux de vote qui étaient censés voter. Mais tous ces bureaux de vote n'ont pas voté. Il y a eu des bureaux de vote qui ont, ils ont effectivement fait le vote et à la fin de la journée, les rebelles sont intervenus, ils ont brûlé tout le bulletin. Donc ces voix-là sont purement à retirer dans les 900 000. Les voix valablement exprimées, c'est uniquement les 300, les 695 000. Ce n'est pas les 900 000. Et donc, ils ont fait un mauvais calcul pour dire que c'est 76% du corps électoral qui a participé. Non, parce que les 76%, parce qu'ils ont calculé à base de 900 000. Mais il faut calculer à base de 1 800 000.
En tout cas, l'opposition estime que le...
95 000 ont retiré là-dedans.
Oui, l'opposition estime que le taux de participation n'atteint même pas le seuil de 40% de son côté. Vous disiez, M. Lakosso, que vous n'êtes pas étonné des recours introduits par l'opposition. Et qu'en sera-t-il de la décision de la Cour constitutionnelle? Est-ce que vous vous attendez à ce que peut-être cette Cour invalide les résultats des élections au regard de la fraude, des fraudes que vous avez évoquées et aussi des conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées ces élections?
Ben, selon la logique, l'invalidation de ces élections devait être ce qu'on attend. Mais ici, nous sommes en politique. La logique politique est différente de la logique logique. Et cette Cour constitutionnelle a pris l'habitude de nous surprendre ici. Quand on imagine qu'elle ne va pas dire le droit, elle dit le droit. Quand on l'attend pour dire le droit, elle fait autre chose. Et donc, je suis vraiment un peu incapable de
Donc, vous n'êtes pas. Vous pensez que la Cour constitutionnelle n'est pas indépendante? Ouais. Elle n'est pas neutre?
Non, pas tout à fait. Elle n'est pas tout à fait indépendante. Mais c'est comme je dis, il y a des fois où elle dit le droit, il y a des fois, par exemple, la dernière fois, il y a eu un incident majeur qui s'est produit dans le processus électoral. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle devait s'auto-saisir sur la question. Elle ne l'a pas fait, mais les candidats l'ont saisi et n'ont pas dit le droit. Il y a un candidat qui s'est retiré, qui a écrit pour dire que je me retire, ma candidature.
Monsieur Bokassa.
Selon l'article 115, voilà, selon l'article 115 du Code électoral centrafricain, dès que c'est constaté, la Cour constitutionnelle, si c'est fait avant la tenue des élections, la Cour constitutionnelle devrait arrêter le processus.
Et reporter les élections. Mais merci, monsieur Lakosso, on ne va pas... On ne va pas revenir sur les décisions de la Cour constitutionnelle, mais sinon s'intéresser à l'avenir. Justement, cette Cour constitutionnelle, Saint-Tis le disait, doit invalider ou non l'élection dès le premier tour, le fameux coup KO de Faustin Archange Touadéra. Mais comment appréciez-vous la position des partenaires extérieurs de la Centrafrique dans une déclaration conjointe? Les représentants à la fois de l'Union africaine, de Nations unies, de la CEAC, de l'UE ont affirmé qu'il appartient à cette Cour constitutionnelle dont vous dites n'est pas neutre de proclamer les résultats définitifs et à l'ensemble des acteurs politiques, dit encore cette déclaration, de respecter les décisions de la Cour. Comment appréciez-vous cette position?
C'est de la malignité. C'est une position très politique parce qu'il dit ça et après, c'est eux qui exercent des pressions sur la Cour constitutionnelle pour ne pas dire le droit. Nous savons dans quelles conditions la dernière décision de la Cour constitutionnelle a été rendue. Il y a eu des pressions.
Donc, pour vous, la Cour constitutionnelle est manipulée par les partenaires extérieurs de la Centrafrique?
La Cour constitutionnelle, oui, la Cour constitutionnelle n'a pas travaillé dans des conditions libres. La Cour constitutionnelle n'a pas été indépendante dans sa prise de décision. Et là, cette prise de position de la communauté internationale est une manière claire de dire, de demander à la Cour constitutionnelle de valider les résultats provisoires qui est dit par l'autorité nationale des élections. C'est une manière de le faire. Et tel que c'est parti, nous savons que les messes de minuit ont déjà commencé, les pressions ont déjà commencé sur la Cour constitutionnelle pour aller dans le sens de ce que veut la communauté internationale. Parce que
Mais que veut la communauté internationale?
Si je veux pas de deuxième tour, parce que ils ne veulent pas financer le deuxième tour des élections présidentielles.
Est-ce que vous pensez, sincèrement, Monsieur Lacosso, est-ce que vous pensez, oui, Monsieur Lacosso, permettez qu'on vous relance un peu.
Oui.
Alors, vous semblez dire que tout n'est que question d'argent et que la communauté internationale ne voudrait pas décaisser plus d'argent pour la Centrafrique. Est-ce que tout n'est qu'une question d'argent? Et sincèrement, combien de temps il aurait fallu attendre avant d'organiser ces élections qui sont quand même, on va dire, une étape normale dans la vie d'un État? Vous auriez souhaité attendre combien de temps avant des élections en Centrafrique?
Non, il y a eu des experts électoraux qui ont fait des projections. On pourrait reporter même jusqu'à un mois les élections et on allait toujours rester dans le délai constitutionnel.
Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait en un mois qui aurait permis d'éviter la situation actuelle où la Centrafrique se trouve?
Et d'abord, en un mois, on pourrait très rapidement ouvrir une négociation avec les groupes armés pour qu'ils cessent les hostilités, parce que vous voyez que plus de la moitié du territoire est occupé, c'est-à-dire empêché de participer aux élections, ce qui joue sur la légitimité du président. Si la Cour constitutionnelle venait à valider cette élection, mais le président Ouattara serait pas un président vraiment qui jouira de toute sa légitimité. Ça pose problème.
Vous êtes en train de dire que...
Les élections sont importantes dans la vie d'un pays, mais il y a des questions qu'on doit d'abord régler pour que le jeu démocratique... Vous voyez, par exemple, il y a des candidats qui n'ont pas pu battre campagne. Il y a des candidats qui n'ont pas pu se rendre dans l'arrière-pays. Il y a des candidats où certaines zones sont leurs fiefs, mais ils n'ont pas pu.
Merci.
Il n'y a pas eu élection dans leur fief.
D'accord. Donc, pour vous, le report de quelques mois aurait permis peut-être d'ouvrir ces négociations, vous l'avez dit, et chercher peut-être le consensus politique.
Même quelques mois, même un seul mois.
Merci.
Un seul mois aurait suffi s'il y a la volonté politique sur le plan national et surtout de la communauté internationale, parce que vous savez que c'est un pays qui est presque sous tutelle, c'est sous une tutelle qui ne dit pas son nom. Donc, c'est la MINUSCA qui décide.
Permettez-nous de poser les questions aussi. Merci, Monsieur Lacosso, s'il vous plaît. Donc, vous dites qu'il aurait fallu reporter et que cette élection, au regard des conditions dans lesquelles elle a eu lieu, pourrait accentuer la crise politique plutôt que de la régler. Et vous avez également parlé du problème de financement en disant que la communauté internationale ne veut pas financer un second tour. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les conditions sécuritaires qui ont fait que un coup KO était nécessaire? Il fallait absolument qu'un candidat gagne ces élections, puisque de toute façon, il aurait été peut-être impossible d'organiser un éventuel second tour. On le voit aussi, quand même avec le second tour des législatives, cela pourrait être très compliqué.
Ben, la réponse de votre question est dans la question. Parce que c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un second tour qu'on a fait en sorte qu'un candidat gagne. Et c'est tellement gros, c'est cousu avec des fils noirs sur du blanc. L'ANE...
Mais c'est le verdict des urnes, selon l'ANE.
À 16h, l'ANE, suivez ce que je vais vous raconter comme anecdote. L'ANE devait dire le résultat à 16h, les gens sont allés à l'ANE, les gens sont branchés sur les radios jusqu'à 21h. Parce qu'il paraît que Ouattara n'avait pas les voix qu'il faut pour passer. Il fallait tripatouiller, manipuler.
Bah vous-même, vous dites il paraît que, donc vous n'en avez aucune certitude.
Vous supputez, là. Ce sont des supputations, monsieur Lacosso. Vous n'étiez pas.
Non, écoutez-moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Il y a eu ce qui est venu changer les résultats, c'est les résultats de Baoro, une ville de l'ouest du pays. Il y a eu vote dans cette ville, mais les résultats ont été détruits par les rebelles,
des supputations. Nous ne pouvons pas valider ces propos, monsieur Lacosso, parce que nous n'y étions pas, vous n'y étiez pas non plus. Alors, monsieur Lacosso, nous allons, Liliane, je pense,
marquer une pause pour l'instant, et puis on reviendra et on va écouter brièvement nos confrères sur ce sujet de la réélection contestée de Archange Touadéra en Centrafrique.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ismantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Et notre grand invité cette semaine est Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile centrafricaine. Il est en ligne de Bangui. Nous avons également notre confrère Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune à Bamako, et Guillaume Bateau du quotidien ivoirien Notre Voix à Abidjan en Côte d'Ivoire. Notre émission est disponible sur africaradio.com et bbcafrique.com. Et vos commentaires sont très très attendus sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/débat BBC Africa Radio. Saint-Tiche, encore quelques minutes sur le sujet centrafricain et peut-être écouter nos confrères avant de revenir à M. Lakosso, notre invité. Ibrahim Koulibaly, votre analyse de la situation politico-sécuritaire en Centrafrique avec le dernier développement, le couvre-feu, la contestation des résultats et l'attente de la confirmation ou non de ces résultats par la Cour constitutionnelle.
Bon, je commencerai par dire que c'est dommage. En Afrique, nous sommes habitués à ces scènes-là, parce que surtout, plus particulièrement en Centrafrique, tout le monde pensait que c'était le bon départ et que les élections, depuis l'élection du président Touadéra, que la République centrafricaine était sur la bonne voie, tout le monde était heureux. Donc malheureusement, ces élections sont venues réveiller les vieux démons. Donc avec tout ce que cela comporte comme contestation, comme violence, comme remise en question, franchement c'est dommage. Sinon, moi je pense que ces élections ne pouvaient être mieux organisées pour qui connaît la situation sécuritaire dans ce pays-là.
Monsieur Lakosso parle de forcing en quelque sorte de la communauté internationale.
Oui, oui, parce que bon, on ne peut pas parler de forcing parce que quand même le délai est comment dire, constitutionnel est connu. On sait à quelle date on doit finir les élections. Donc, le plus souvent dans nos pays, on met en avant des problèmes sécuritaires pour ne pas tenir les élections et cela aussi crée d'autres problèmes. Moi, je pense que des mauvaises élections vaut mieux toujours que l'absence d'élections parce que l'absence d'élections, ça c'est l'inconnu. Donc, je suis sûr et certain qu'ils auront la capacité de s'entendre. Après les contestations, ils vont revenir à des meilleurs sentiments. L'essentiel que le président Touadéra prenne la température des choses. Et puis bon, la manière qu'on essaie de faire, en tout cas, un partage pour contenter tout et chacun.
Merci
au nom de l'intérêt de la République centrafricaine.
Merci. Saint-Tiche ?
Oui, nous allons à présent écouter notre confrère Guillaume. Guillaume ?
Oui.
Oui, votre analyse sur la situation actuelle en RCA après ces élections et surtout cette vague de contestation dans le camp des opposants.
Je veux dire que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que plus de 60 ans après les invasions des pays africains, on en soit encore là entre des gens, l'opposition qui conteste les conditions d'organisation des élections et un parti au pouvoir et la communauté internationale. Et surtout, ce qui est regrettable, c'est l'action des groupes armés. Moi, je ne suis pas centrafricain, mais je suis toujours malheureux en Afrique que les gens continuent de croire en ce 21e siècle que les armes peuvent être des solutions à des problèmes qui peuvent être existés. Mais nulle part dans le monde, nulle part, la violence armée n'a été une solution pour régler les problèmes, quels qu'ils soient.
Guillaume, aussi sur la question des rebelles, l'action des rebelles, puisque vous en parlez, on a accusé ou reproché au président sortant Touadéra d'avoir été un peu trop laxiste avec les rebelles et dans le cadre surtout de ces accords signés à Khartoum. Est-ce que selon vous, si sa victoire est validée par la Cour constitutionnelle et s'il a un deuxième mandat, est-ce qu'il sera plus dur envers ces groupes rebelles et est-ce qu'il a les moyens d'être plus dur avec eux?
Contrairement à ce que vous dites, moi j'ai apprécié la démarche du président Touadéra, qui de mon point de vue est une démarche responsable. Ce qu'il faut condamner sans emballe, ce sont ces responsables des groupes armés. Le président Touadéra, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu la paix pour son pays. Et comme on dit souvent, il n'y a pas de prix assez fort pour la paix, pour sauver des vies. Il a ouvert le gouvernement, il a associé ces responsables des groupes armés. Ce qui était en principe une bonne chose. Et ces personnalités-là auraient dû comprendre le geste du président Touadéra. Parce que qu'est-ce qu'on gagne à se taper dessus? Rien
merci,
du tout.
Merci,
donc,
merci.
Le président, de mon point de vue, a été de bonne foi. Malheureusement, et je le dis, je condamne sincèrement ces groupes armés. Et je suis malheureux aussi que la MINUSCA, qui est dans ce pays depuis de longues années, n'ait pas pu faire un vrai désarmement. Et c'est la question des opérations des Nations Unies.
Merci beaucoup. Merci.
Il nous reste à peine deux minutes sur le sujet encore, Saint-Tich, avec notre invité.
Allô, Monsieur Lacosso, j'espère qu'il est là.
Oui.
Alors,
oui,
Monsieur Lacosso, voilà. Finalement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours où on assiste à cette montée de plus en plus forte de tensions sur le plan politique et sécuritaire? La MINUSCA, vous dites, n'est pas efficace. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours alors qu'on est dans l'attente de l'organisation du second tour des législatives? Et peut-être d'une possible arrestation aussi de François Bozizé, qui fait l'objet d'une enquête judiciaire.
Oui, bon, mais il est dans la forêt, il faudrait qu'on le trouve pour l'arrêter. Et déjà là, que le gouvernement, jusqu'à présent, ne veut pas dialoguer, et le gouvernement est en guerre contre les groupes armés. Dans les discours de la Saint-Sylvestre du chef de l'État, il a déclaré la guerre, mais sauf que, ils ne font pas cette guerre, selon l'avis de tout le monde ici en Centrafrique. On ne les voit pas combattre et neutraliser les groupes armés. Le corridor Bangui-Douala n'est toujours pas ouvert. Et conséquence, les prix des denrées alimentaires ont grimpé à Bangui, à la rareté des produits.
Donc une crise sociale aussi qui commence.
Qui commence, et il faudrait absolument, je suis totalement d'accord avec l'un des intervenants qui disait que la violence n'est pas du tout une solution.
Guillaume Bateau.
Il faut que nous, au niveau de la société civile, nous condamnons fermement la démarche de François Bozizé et les CPC, cette nouvelle coalition-là. Nous condamnons fermement cette démarche-là et que ce n'est pas vrai. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que c'était bien ce que Touadéra a fait au début. Nous pensons que c'est aussi la faute de Touadéra si aujourd'hui François Bozizé a trouvé facilement de la main-d'œuvre pour constituer sa rébellion. C'est lui qui les a entretenus. Le problème qui se pose, c'est ce qu'il disait. Si ces groupes d'armées étaient composés que des centrafricains, ça ne devrait pas poser de problème. Il y a des groupes de mercenaires qui sont installés en République centrafricaine, et là encore, la communauté internationale a sa part de responsabilité dedans. On a forcé, on a obligé le président Touadéra à négocier avec eux, à aller signer un accord avec eux. Et dans le gouvernement de la République centrafricaine, on a nommé des étrangers. Des étrangers, ce n'est pas des
colons. En deux mots, M. Lokossos, la dernière question. Ma question était de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant avec cette ébullition sur le plan politique, social, vous l'avez dit, et ce contexte sécuritaire. Est-ce qu'on s'achemine vers la reprise des armes en Centrafrique définitivement?
Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas à partir du moment où il y a eu plusieurs voix, même le pape a demandé au président d'ouvrir le dialogue. Il a refusé, il dit qu'il ne veut pas ouvrir le dialogue avec les groupes armés, mais sauf que la capacité de les neutraliser laisse à désirer. Et puis aussi,
merci,
les groupes armés ne veulent pas. Ils continuent et c'est le peuple qui paye le lourd tribut.
Merci beaucoup,
dans la forêt. Nous sommes déjà en pleine crise. Il faut absolument une médiation pour arrêter cela. Sinon, c'est vraiment l'inconnu.
Merci.
On ne sait pas ce qui va se passer.
Et le second tour de législative est compromis. Saint-Tiche, on va peut-être passer rapidement au deuxième sujet, juste après cette pause.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et notre grand témoin cette semaine est Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile. Il est à Bangui. Nos deux journalistes sont invités. Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune à Bamako. Et Guillaume Bateau, directeur du Nouveau Réveil à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez écouter cette émission ou la réécouter sur nos sites internet bbcafrique.com et africaradio.com et nous faire part de vos commentaires et avis sur la page Facebook facebook.com/débat BBC Africa Radio. Au Mali, des civils auraient péri dimanche dans des frappes de l'armée française à Bonti, un village du centre du pays. Des témoins sur place rapportent que des victimes participaient à un mariage dans le village lorsqu'elles ont essuyé des tirs aériens. Mais l'état-major français, appuyé par l'armée malienne, rejette cette version et affirme qu'il s'agit bien des cibles terroristes. On va commencer avec vous qui êtes à Bamako, Ibrahim. On parle de cet incident depuis le début de la semaine, mais personne n'est en mesure aujourd'hui de réfuter avec des preuves formelles l'une ou l'autre de ces deux versions. Pourquoi ? Et est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager un déplacement, peut-être des députés sur place, des élus locaux, pour savoir ce qui s'est réellement passé dimanche ?
Merci, c'est difficile d'envisager cette solution parce qu'aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est No Man's Land, le centre du Mali. Depuis un certain temps, il n'y a pas d'élus parce qu'avec la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, l'Assemblée nationale a été dissoute. Donc la transition a procédé à la mise en place d'un Conseil national de transition, le CNT, où on a nommé des membres. Donc ces membres-là, quelle est leur légitimité ? Et puis ces membres, ils n'ont pas une représentativité territoriale. Donc on s'est assis à Bamako ici, on a nommé des gens. Donc il n'y a pas.
Donc il n'est pas possible de, pour le gouvernement malien ou l'armée malienne ou toute autre entité malienne de savoir réellement ce qui s'est passé sur son territoire ce dimanche-là ?
Oui, c'est possible. C'est possible d'en savoir beaucoup plus. Mais vous savez, à la matière, c'est l'omerta parce que tout laisse à croire que c'est une bavure de l'armée. De l'armée française ou de l'armée malienne, parce que quand on lit les deux communiqués, dans un premier temps, on dit que c'est l'armée française qui a mené, en tout cas, des patrouilles, parce que les informations leur donnaient la présence des djihadistes. Et l'armée malienne aussi vient dire que, bon, c'était une patrouille conjointe avec l'armée française. Donc, tout porte à croire que les deux armées sont en train, en tout cas, de museler les formations.
Mais comme Liliane l'a dit, Ibrahim, comme Liliane l'a dit, il n'y a pas de preuve d'une ou de l'autre version, en fait. C'est difficile à vérifier, que ce soit d'un côté comme de l'autre.
Difficile à vérifier, mais moi, je pense que l'information donnée par les villageois doit faire foi, parce qu'à la matière, depuis un certain temps, tout le monde s'informe auprès des villageois. Hein. C'est eux qui ont les bonnes informations, c'est eux qui savent réellement ce qui se passe. Maintenant, pour parler du centre du Mali, très objectivement, vous savez aujourd'hui le centre du Mali est pris en otage par deux groupes essentiellement, c'est-à-dire le groupe taxé des djihadistes, le groupe djihadiste, et aujourd'hui il y a la confrérie des Dosso, cette confrérie aussi, ce qu'on appelle les chasseurs, qui s'est organisée, et tous les adhérents, donc ce sont ces deux-là qui s'affrontent. Et de l'autre côté, il y a l'armée malienne. Et l'armée malienne s'attaque aux deux, selon le cas. Mais c'est plus souvent les djihadistes qui sont traqués, et par l'armée française et par l'armée malienne. Mais aujourd'hui, qui contrôle réellement le terrain au centre du Mali ? Difficile de répondre à cette question. Donc le centre du Mali est divisé, chacun, c'est-à-dire gère une portion. Les Dosso, les chasseurs gèrent une portion, les djihadistes gèrent une portion.
Excusez-moi aussi. Ibrahim, si je vais dans votre logique, sur quelle base l'armée malienne a-t-elle endossé, s'est-elle alignée sur la version de l'armée française alors, si vous dites que voilà, l'armée ne peut pas s'y rendre et que c'est un no man's land?
Oui, si je dis l'armée ne peut pas s'y rendre, il y a l'armée qui est présente sur le terrain, mais l'armée est cantonnée. Si je peux m'exprimer ainsi dans la ville de Mopti.
Oui, mais cette armée qui s'est alignée, disais-je, qui s'est positionnée pour la position de l'armée française, quels sont les éléments qui lui ont permis de dire que oui, ce que affirme l'état-major français est vrai, d'après vous?
Oui, parce qu'à la matière, l'armée française et l'armée malienne, ils font des patrouilles conjointes. Le plus souvent, ils partagent les informations, et puis s'il y a des opérations, le plus souvent, ils mènent des opérations ensemble. Donc, ce qui fait que le plus souvent, les informations qu'elles donnent des deux armées sont des informations concordantes parce qu'ils travaillent ensemble, ils partagent les mêmes informations. Mais la réalité est tout autre parce que aujourd'hui, la question que le Malien lambda se pose, malgré la présence de toutes ses forces, le nord centre du Mali est devenu un no man's land, comme je le disais.
Merci.
Personne ne contrôle le nord, les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Bientôt, la route qui relie Ségou, la ville de Ségou, la région de Ségou à la région de Mopti est coupée.
Merci. Oui, on va notre invité.
Oui, merci beaucoup, Ibrahim. Monsieur Lakosso.
Oui.
Vous suivez cette actualité au Mali avec la mort de ces personnes, tantôt dites civiles, de l'autre côté dites djihadistes par l'armée française. Votre commentaire ?
Ben, je pense que c'est l'inconvénient de la présence des forces étrangères dans un pays. C'est le cas de la République centrafricaine. Chaque fois qu'il y a des bavures, le premier réflexe, c'est de nier ces bavures-là. C'est ce qui se passe ici assez souvent avec la MINUSCA. Et je pense que c'est une leçon à retenir pour les Africains. Nous sommes à plus de 60 ans d'indépendance. Nous devons nous organiser à éviter les crises à répétition qui font qu'il y a des forces étrangères dans notre
pays. Monsieur Lakosso, est-ce que justement, ce n'est pas trop facile que à chaque incident de brandir cette carte qui dit les forces étrangères sur nos territoires n'ont rien à y faire, alors qu'en réalité, ce sont les gouvernements africains qui les invitent. Et quand les résultats sont bons, on se félicite de cette coopération. Et quand il y a des incidents, on rejette cette coopération. Est-ce que ce n'est pas trop facile ?
C'est quelque part facile, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, je ne suis pas de ceux qui se réjouissent quand cette coopération se passe bien. Parce que quand cette coopération se passe bien, c'est ce que moi j'appelle un expédient. On expédie le problème, il va revenir. La preuve, la toute-puissante armée française est au Mali depuis des années. Mais le problème malien est loin de se résoudre. Ça se complexe, chaque jour.
Et même les accords de paix ne sont pas appliqués.
D'Alger. Oui. Voilà, moi je dis que ce n'est pas la faute de la France, je ne suis pas de ceux qui pleurent, non, je dis que c'est notre faute, on n'a pas de dirigeants politiques créatifs, on ne veut pas penser nos problèmes nous-mêmes, on est là comme des petits-enfants tout le temps à faire recours à la France. Non, il faut penser à résoudre ces problèmes nous-mêmes, c'est lorsqu'on commencera à penser, résoudre ces problèmes par nous-mêmes, qu'on va trouver la solution. Excusez-moi de faire le rapprochement. C'est comme ici, on a fait venir les Russes, les Rwandais et tout ça, mais la situation n'évolue pas sur le terrain. L'État centrafricain ne maîtrise pas encore les groupes armés parce que les Russes et les Rwandais sont là.
Merci beaucoup. Mais en même temps, avec l'embargo sur les armes en Centrafrique, je ne sais pas comment cela pourrait se passer autrement. Mais je voudrais peut-être, Sentish, qu'on donne très rapidement la parole à Guillaume. En 30 secondes, Guillaume, puisque vous allez intervenir longuement tout à l'heure sur la Côte d'Ivoire, quel est votre regard sur ce que certains appellent la bavure de l'armée française, mais impossible de dire si ça en est une ou pas.
Oui, mais justement, le problème est là. Personne ne peut vérifier. Et tout à l'heure, votre question à mon confrère Ibrahim, il disait que ceux qui sont nommés n'ont pas la légitimité. Il ne s'agissait pas de la légitimité ou pas. Qu'ils soient légitimes ou pas, ce sont des Maliens. On doit pouvoir, la société civile malienne, les médias maliens, doivent pouvoir demander au gouvernement de faire en sorte d'encadrer peut-être une délégation de journalistes pour se rendre sur place. Si on estime que les informations données par les villageois sont controversées par celles données par l'armée française. Mais au-delà de tout ça, ce que je disais tout à l'heure, on se plaint, et vous l'avez dit, les Africains aiment dire oui, les forces étrangères, c'est cela. Mais si vous avez des chefs d'associations d'État comme Bozizé, qui croient que leur salut, c'est dans prendre la prise des armes pour déstabiliser leur propre pays. Si les enfants africains ne veulent pas faire de la démocratie la pierre angulaire de leur développement, pensent que le recours aux armes, le recours au coup d'État, on parle au Mali aujourd'hui, on parle de cette situation. Il y a quand même eu le coup d'État contre le président Ibeka. Moi, j'étais de ceux qui étaient contre le coup d'État contre le président Ibeka. On a dit oui, c'est le président Ibeka qui ne faisait pas avancer les choses. Mais l'armée au pouvoir aujourd'hui au Mali, les problèmes continuent. Donc il faut que les Africains comprennent que ce n'est pas dans les raccourcis des armes que ce soit le salut de l'Afrique. Tant qu'on ne va pas le comprendre et qu'on va se complaire dans cette prise de position, je veux dire, infantile, bien entendu, on sera obligé d'avoir recours aux forces étrangères.
Merci
parce que
beaucoup.
La vérité, c'est quoi? Si les forces étrangères se retirent aujourd'hui du Centrafricain et du Mali, mais les rebelles seront à Bamako et à Bangui. Ça, c'est la réalité.
Merci
Il faut
beaucoup.
Que les Africains apprennent à respecter leur propre pays et à faire en sorte qu'on se ressemble aux autres continents et non à des continents de sauvages.
Saint-Tich, on va terminer avec notre confrère du Mali, Ibrahim. Allô, Ibrahim ?
Oui.
Oui, peut-être juste pour vous demander, déjà en novembre 2017, on parlait d'une bavure de l'armée française, la force Barkhane, avec la mort de 11 soldats maliens, otages des djihadistes. Et après plusieurs jours de silence, le ministre malien de la Défense d'alors avait affirmé que c'était une bavure et avait déclaré avoir rencontré l'ambassadeur de France au Mali à l'époque. Et les deux parties avaient tiré, dit-il, les leçons de cette tragédie et avaient convenu d'améliorer leur communication. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une réelle communication, une bonne coordination entre la force Barkhane et le gouvernement malien, et y compris les FAMA, les forces armées maliennes?
Oui, tout ce qu'on peut dire, madame, c'est qu'ils travaillent ensemble. Bon, maintenant, une bonne coordination, on ne peut pas le confirmer. C'est que quand même, tous les déplacements de l'armée malienne sont suivis de près par l'armée française.
Mais ce n'est pas l'avis de beaucoup d'experts que nous avons entendus, hein, qui se plaignent justement du manque de collaboration entre l'armée française et celle des pays du Sahel.
Non, quand on parle de collaboration, peut-être c'est l'armée française qui... Peut-être l'armée française ne donne pas assez d'éléments, assez d'informations, parce qu'avec tout l'équipement dont ils disposent, ils devaient être en mesure de donner beaucoup plus de détails pour éviter certaines choses. Mais c'est ce qui est, malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait. Mais l'armée malienne, quant à elle, quand même, communique beaucoup. Et donc, ses positions sont connues par l'armée française. Il n'y a même plus de secret. Tout se fait à l'avance.
Mais pas l'inverse.
Oui, mais pas l'inverse.
Est-ce que vous êtes... au Mali, on parle de plus en plus de retrait des forces de Barkhane au Mali et dans le Sahel. Est-ce que vous... En deux mots, est-ce que c'est votre souhait?
Qui date depuis des années maintenant. Au Mali, il y a toujours des gens qui sont contre la présence des forces étrangères, tout comme il y en a aussi qui les approuvent. Je suis d'accord avec mon confrère Ivoirien qui dit que si les troupes étrangères se retiraient de nos deux pays, mais il y a de fortes chances que les rebelles soient dans nos capitales. Donc moi, je pense que ce qui n'est pas... Ça veut dire que la coopération, le rapport n'est pas juste. Vous voyez, on a l'impression que nos armées sont sous couvert de l'armée étrangère qui donne en fonction de son bon vouloir, les informations les plus utiles et les renseignements les plus utiles, chaque fois que ça l'arrange, mais si ça ne l'arrange pas, elle les garde par derrière elle-même. Donc, mais nos armées sont contraintes de donner leur position, de communiquer, de dire beaucoup de choses, même pour
merci beaucoup Ibrahim, je m'excuse de vous interrompre.
Sans transition, Saint-Tich,
oui,
je vous laisse la parole pour le dernier sujet.
Le dernier sujet qui est la Côte d'Ivoire, où il n'est plus question de boycott ni de désobéissance civile du côté de la coalition de l'opposition qui a confirmé sa participation aux législatives prévues début mars prochain. Certains y voient déjà la preuve que le climat s'est décrispé au niveau de la classe politique et les opposants ainsi que le RHDP parlent même d'avancer dans le dialogue politique. Guillaume, je voudrais vous demander, quelles sont ces avancées, vu que les principales revendications de l'opposition n'ont pas été satisfaites quand même. L'opposition qui demande l'abandon des poursuites judiciaires contre les membres de l'opposition et aussi la réforme de la commission électorale. Est-ce qu'il y a eu réellement une avancée dans le dialogue politique?
Bon, on va dire théoriquement, puisqu'il y a eu un texte qui a été publié. D'ailleurs, même il y a eu une petite polémique sur la signature ou non de ce texte par l'opposition. Peut-être comme avancée, on va peut-être dire la libération du président du FPI, l'ancien Premier ministre Pascal Nkrumah, qui est même sous contrôle judiciaire. Mais ce qui est clair, c'est que les avancées sont minimes. Elles sont minimes parce que, vous l'avez même rappelé, les revendications de l'opposition sont nombreuses. D'abord, la cessation des poursuites judiciaires contre plusieurs centaines de membres de l'opposition et de la société civile qui sont aujourd'hui détenus. La réforme de la commission électorale. Je rappelle que suite donc à la signature du dernier accord, les représentants de l'opposition qui étaient déjà au sein de la commission ont souhaité y repartir, mais font face à des blocages. Donc, les avancées vraiment sont minimes.
Alors,
peut-être que dans les prochains jours, on verrait des vrais signes d'avancée, mais pour moi, j'allais
donc,
dire que c'est...
On peut dire que l'opposition ivoirienne donne juste foi à la bonne disposition des autorités, en fait. Mais il n'y a pas eu de gage de ferme.
Oui, bon, je pense que l'opposition aussi n'a pas trop le choix. Aujourd'hui, sa stratégie de désobéissance civile et de boycott, bon, n'a pas marché. Le pouvoir semble avoir repris tout en main. Bon, elle essaie de, je me dis qu'elle essaie de prendre l'opinion nationale et internationale à témoin, dit que nous essayons de faire contre mauvaise fortune bon cœur, en espérant que justement cette disposition va amener peut-être le pouvoir à lâcher du lest. Sinon, véritablement, aujourd'hui, rien n'a fondamentalement changé par rapport à la situation qui prévalait il y a deux ou trois mois, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle. La commission électorale, qu'elle soit au niveau de la commission centrale ou de la commission locale, reste outrageusement dominée par le RHDP. Les prisonniers politiques sont encore nombreux.
Mais Guillaume, en acceptant d'aller aux élections dans ces conditions, sans avoir gain de cause sur ces revendications, est-ce qu'il y a encore l'espoir que l'opposition puisse voir ses exigences encore examinées et prises en compte par le pouvoir?
Je me dis, c'est mon avis personnel, je ne suis pas dans la tête des opposants, mais je me dis que les élections sont prévues pour mars. En donnant foi à ce dialogue-là, l'opposition espère certainement faire pression à travers les partenaires de la Côte d'Ivoire sur le régime pour que les choses puissent avancer dans le bon sens. Est-ce que le gouvernement va saisir cette opportunité? Je n'en sais rien. Parce que quand on écoute un peu les responsables du parti au pouvoir, bon, ils sont beaucoup plus dans allons-y, avançons. Mais bien entendu, la paix et la stabilité dans un pays est d'abord tout et avant tout la responsabilité du pouvoir. Si le parti au pouvoir joue la sourde oreille et qu'on continue en ne réglant pas les problèmes de fond, malheureusement, ces problèmes vont ressurgir. Et c'est pourquoi moi je ne comprends toujours pas nos dirigeants africains qui préfèrent garder les problèmes sous le coude au lieu de les régler. On connaît les problèmes de la Côte d'Ivoire.
Merci.
Les propositions de solutions sont connues. Donc il faut y aller si on veut vraiment un pays qui sort de crise due depuis 30 ans.
Il nous reste à peine 5 minutes, monsieur Bateau. Merci beaucoup, Saint-Tiche.
Nous allons écouter notre confrère Ibrahim Koulibaly sur cette actualité en Côte d'Ivoire. Ibrahim?
Oui, en Côte d'Ivoire. Moi, je me réjouis de la décrispation du climat politique parce que lors des élections présidentielles, ce qu'on voyait en Côte d'Ivoire était très inquiétant pour toute la sous-région, plus particulièrement au Mali. Mais aujourd'hui, on sent quand même une décrispation, même si c'est des façades, même si on n'a pas encore touché les problèmes de fond. Mais en tout cas, à l'apparence, ce qui se passe est rassurant. Le fait que l'opposition ait accepté d'aller aux élections législatives, cela voudrait quand même dire quand même que le président Alassane et son équipe ont fait des concessions, que l'opposition aussi a pris la température réelle de la situation, parce que la politique de la chaise vide n'a jamais arrangé une situation.
Merci beaucoup.
Absent de toutes les structures, ce n'est pas une bonne chose. Donc on espère qu'avec le temps, l'essentiel que chacun soit de bonne foi, et les autres détails seront réglés au fur et à mesure.
On va écouter rapidement notre invité. Merci beaucoup. Désolé de vous interrompre le temps. Monsieur Lakosso, sur cette participation de l'opposition aux législatives après 10 ans de boycott?
Oui, c'est une bonne chose, comme le disaient les autres frère d'Abidjan et de Bamako, c'est bien parce que la politique de la chaise vide n'est pas bonne, et aussi surtout la décrispation de la situation au Côte d'Ivoire, il était vraiment temps de le faire, mais je pose les mêmes inquiétudes que David, je crois, et qui dit que à partir du moment où les problèmes n'ont pas été vidés, j'espère que ces problèmes ne vont pas encore revenir pour créer de nouvelles crises. Il faudrait absolument que l'occasion soit saisie, comme si les élections sont en mars, nous sommes encore à un pas de mars, il faudrait absolument que le dialogue, un dialogue sincère, se tienne, qu'on trouve des solutions durables à ce problème-là,
merci.
Que tout le monde a expérimenté la violence et tout ça, ça n'a pas marché. Le président Ouattara a essayé de faire cavalier seul aussi, ça n'a pas marché, puisqu'il est revenu lui-même dialoguer avec les autres. On ne peut rien faire seul, il faut faire avec Merci. Les autres. Donc il faut, ils sont déjà sur la bonne voie, il faut qu'ils aillent au fond de cette bonne voie pour résoudre définitivement les problèmes en Côte d'Ivoire.
Merci, on va écouter à présent les réactions de nos auditeurs avec Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Tiche, bonjour à vous chers auditeurs et auditrices et bonne et heureuse année à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Centrafrique, Jean Zoumon estime que l'insécurité a donné un coup de frein au processus électoral. Pour lui, il appartient à l'État de prendre toutes ses responsabilités pour éviter le chaos. De son côté, Ala Kerim Lamana affirme que c'est inadmissible de parler d'élections alors que la sécurité des personnes et des biens n'est pas garantie. Frappe du village de Bounti au Mali, Charles Bazema appelle à la retenue et à la prudence. Pour lui, seule une vraie enquête libre et transparente déterminera ce qui s'est réellement passé. Côte d'Ivoire, Léopold Kouamé pense qu'une participation de l'opposition aux législatives revient à admettre que la candidature de Ouattara à la dernière élection présidentielle n'était pas une violation de la Constitution. Merci à Nana Landry pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier Ladislas Lando. Monsieur Lakosso, en quelques mots, une réponse globale, une conclusion générale à ce débat?
Oui, je pense que une crise, c'est comme une maladie. Hein. Quand on attrape une maladie, on est obligé de se soigner. Donc, que ce soit en Centrafrique, au Mali, comme en Côte d'Ivoire, il faut absolument trouver des solutions, mais des vraies solutions. Je reste sur mon exemple, c'est quand on est malade, il faut prendre un vrai traitement, il faut aller voir un médecin qui fait un vrai diagnostic, qui trouve la maladie et qui soigne. Donc, on doit faire preuve de créativité politique. La solution n'est pas dans les armes, surtout chez moi en Centrafrique. J'espère que notre chef de l'État va comprendre cela et prendre une autre voie que la voie de la guerre. C'est vrai, il est obligé de défendre l'intégrité du territoire et tout ça, mais ce n'est pas ça la solution, puisque ça ne marche pas. Il faut expérimenter une autre voie, la voie pacifique et la plus efficace.
De la discussion. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce débat. Que de crise, hein, la RCA, le Mali, la Côte d'Ivoire, Saint-Tiche, on aimerait bien parler d'autres choses et le sujet plus positif, hein, dans nos émissions. En tout cas, merci à vous, Gervais Lakosso, d'avoir accepté notre invitation, coordonnateur du groupe de travail de la société civile en Centrafrique. Merci au confrère Guillaume Bateau, journaliste au quotidien Notre Voix, proche du FP pays à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'hebdo La Nouvelle Tribune à Bamako, au Mali. Réalisation à Dakar, Abdou Diop à Paris, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas Lando. Retrouvez votre émission quand vous le souhaitez sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com et faites-nous part de vos commentaires et avis sur la page Facebook de l'émission facebook.com/débat BBC Africa Radio. Il ne me reste plus, Saint-Tiche Mantartomté, qu'à vous dire au revoir et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du débat BBC Africa Africa Radio.
Au revoir Liliane Yatcha.
Merci, au revoir et bonne écoute à nos auditeurs. À bientôt.